France Culture.
Sur France Culture.
Et le journal vous est présenté par Héloïse Weiss.
Bonjour à toutes et à tous. En Pologne, les bureaux de vote sont ouverts pour le second tour de l'élection présidentielle. Une élection qui oppose deux profils et deux visions politiques radicalement opposées. Pour en parler, nous recevrons Dorota Dakowska, professeure des universités en sciences politiques à Sciences Po Aix. Dans le reste de l'actualité, des Gazaouis décrivent un chaos. Une trentaine de personnes ont été tuées par des tirs israéliens. Ces civils se dirigeaient tôt ce matin vers un site d'aide américaine à l'ouest de Rafah. À Chicago, les dernières innovations sont présentées au Grand Congrès sur le cancer et l'espoir de la recherche est aussi français. Et puis retour sur 40 ans de pêche, de chasse et d'annonces matrimoniales avec le mensuel Le Chasseur Français. Les sondages d'opinion prédisent un scrutin extrêmement serré. Deuxième tour de l'élection présidentielle en Pologne qui oppose le maire pro-européen de Varsovie, Rafał Trzaskowski, et l'historien nationaliste Karol Nawrocki. Et dans la capitale, nous retrouvons Sébastien Baer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans un bureau de vote installé dans une école de Varsovie.
Oui, depuis ce matin, 7h, les électeurs défilent dans les bureaux 386 et 387, où vient de se présenter à l'instant le candidat nationaliste. Il est à 10 mètres de nous, Karol Nawrocki, venu voter dans ce bureau. L'immense urne transparente est installée dans le gymnase, sous le panneau de basket. Carte d'identité à la main, Konrad, 30 ans, vient de voter pour Rafał Trzaskowski, le candidat soutenu par la coalition de Donald Tusk.
Il est pro-européen, il est instruit et intelligent. C'est l'homme qu'il nous faut. L'autre candidat, je le connais peu. Il est complètement sorti du chapeau.
L'éducation, la santé, le logement. Barbara, qui porte un chemisier léopard, a fait la liste de ses priorités. Elle aussi a voté pour Rafał Trzaskowski pour mettre fin aux 10 années de pouvoir du PiS, le parti droit et justice du président sortant.
Je n'aime pas du tout le PiS. Je n'ai pas du tout apprécié ce qu'ils ont fait ces dernières années. Ils nous renvoient à l'époque communiste. Ils empêchent les femmes de vivre leur vie et ce n'est pas possible.
À l'inverse, Malgorzata, 58 ans, a voté pour Karol Nawrocki en accord, dit-elle, avec les idées du candidat nationaliste.
Je suis contre l'avortement, comme Nawrocki. Et je trouve qu'il y a trop d'aide pour les réfugiés ukrainiens. Ils ont tendance à se comporter comme s'ils étaient chez eux.
Le duel sera très serré. Selon les équipes de campagne, la victoire pourrait se jouer à moins de 200 000 voix. Fermeture des bureaux à 21h et premières estimations dans la foulée.
Merci Sébastien Baer en direct de Varsovie avec Nicolas Mathias pour les moyens techniques. Bonjour Dorota Dakowska.
Bonjour.
Vous êtes professeure des universités en sciences politiques à Sciences Po Aix. Avec vous, nous allons revenir sur les principaux enjeux de ce deuxième tour en Pologne qui voit s'affronter, on l'a entendu, deux candidats au profil très différent avec donc deux visions du monde très différentes. Qu'est-ce que ça raconte de la société polonaise ?
Eh bien, ce scrutin montre que la société est clivée et que le champ politique est clivé aussi, très polarisé. Et marqué par une certaine droitisation, comme cela s'est vu dans d'autres pays européens.
Comment on explique justement cette droitisation ?
Eh bien, cette droitisation a été marquée par le renforcement des partis d'extrême droite qui ont eu un score considérable au premier tour il y a 2 semaines, donc plus de 21%. Donc il y a eu 2 candidats d'extrême droite et c'est le principal candidat d'extrême droite qui a dicté un peu le terme de scrutin pour ce deuxième tour.
Quelle a été son influence précisément ?
Eh bien, ce candidat, Mensen, a invité les deux principaux candidats en lice sur son canal YouTube, et donc pour un entretien. Et il leur a demandé de signer une déclaration en 8 points, ce que le candidat nationaliste a fait sans signer. Il a souscrit à tous ces 8 points. Le candidat libéral, le maire de Varsovie, n'a rien signé, mais il a néanmoins dit qu'il était d'accord à peu près avec 4 de ces 8 points.
Parce que la campagne électorale s'est notamment faite sur la question de la sécurité et de l'immigration.
Oui, c'était les principaux points de campagne, des débats. La sécurité, pour des raisons évidentes, de la guerre en Ukraine, Poutine qui menace aussi indirectement la Pologne, mais qui a aussi été articulée avec le thème de l'immigration, à la fois sur la question de la frontière polono-bélarusse, avec l'instrumentalisation des migrants par le dictateur bélarusse Loukachenka, mais aussi sur l'accueil de réfugiés ukrainiens, où des voix se sont fait entendre pour justement limiter les aides sociales qui sont versées à ces personnes, qui d'ailleurs sont très très bien intégrées sur le marché de travail.
Tout de même, les deux candidats soutiennent toujours l'Ukraine.
Oui, ils se sont tous les deux prononcés pour le soutien à l'Ukraine, néanmoins avec des différences qu'il faut noter, puisque le candidat conservateur nationaliste Navrotsky s'est prononcé contre toute perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui d'ailleurs n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, ce qui reprend en fait le discours de Donald Trump et aussi celui de Vladimir Poutine.
Quel est le rapport aussi à la religion de ces deux candidats? Il y a notamment un point de débat, c'est celui sur l'avortement qui a pris une grande place pendant l'élection. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça?
Voilà, donc l'Église catholique a encore un poids important en Pologne. Effectivement, ce qui est un risque pour le candidat libéral Trzaskowski, c'est que il s'est prononcé pour la libéralisation du droit à l'avortement, qui aujourd'hui est extrêmement restrictif, le plus restrictif dans l'Union européenne. Alors, même s'il n'a pas mis ça au premier plan dans sa campagne et dans l'entre-deux-tours, c'est une étiquette qu'on essaie de lui coller, que la droite réactionnaire et nationaliste essaye de lui coller en le qualifiant de candidat soi-disant gauchiste, ce qui est relativement paradoxal puisqu'il fait partie d'une formation qui appartient au Parti populaire européen dans le Parlement européen, qui n'est pas un parti de gauche mais de droite.
Et quelle est la vision de ces deux candidats vis-à-vis de l'Union européenne ?
Là, les différences sont très prononcées. On a un candidat libéral, Trzaskowski, qui est d'ailleurs diplômé du Collège d'Europe, spécialiste de l'Union européenne et qui est favorable à l'approfondissement de l'intégration européenne. Et un autre candidat qui est certes diplômé et même docteur en histoire, mais qui est plutôt adepte du souverainisme Europe des Nations et qui voudrait plutôt affaiblir l'Union européenne.
Donc finalement, on voit que cette élection en Pologne, elle reflète plus largement la polarisation qu'on observe en Europe.
Oui, en Europe et dans d'autres pays dans le monde, y compris aux États-Unis. Donc effectivement, c'est une tendance que l'on retrouve dans d'autres pays qui est transnationale.
Merci Dorota Adakowska. Je rappelle que vous êtes professeure des universités en sciences politiques à Sciences Po Aix. Merci à Loïse Guérin pour la préparation de cet entretien. Deux ponts se sont effondrés cette nuit dans le sud-ouest de la Russie, près de la frontière ukrainienne, dans les régions de Bryansk et de Koursk. Ces effondrements ont provoqué des déraillements de trains dont l'un a fait au moins 7 morts et 66 blessés, selon les autorités. Deux incidents classés comme des actes de terrorisme, a déclaré le porte-parole du comité d'enquête russe. Le Kremlin annonce que le président Poutine suit l'affaire de très près. À Gaza, en pleine distribution alimentaire, des drones et des chars ont ouvert le feu sur la foule dans un territoire déjà dévasté. Selon la défense civile gazaoui, des tirs israéliens ont fait au moins 31 morts. Et c'est au lendemain de la réponse du Hamas au plan Witkoff, une fin de non-recevoir pour Israël. Michel Paul, vous êtes en direct de Jérusalem. Bonjour.
Bonjour Louise, bonjour à tous.
Pas de trêve donc, et l'armée israélienne continue de faire pression sur l'organisation islamiste.
Oui, après avoir confirmé la mort de Mohammad Sinwar, l'armée israélienne poursuit et redouble même l'intensité de son offensive sur la bande de Gaza. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a réitéré ses menaces envers le Hamas, accepter le plan Witkoff ou bien être anéanti. L'armée de l'air israélienne affirme avoir frappé des dizaines de cibles sur l'ensemble de l'enclave palestinienne depuis le début du week-end, un effort particulièrement ressenti dans le nord de Gaza, et le porte-militaire en arabe a réitéré l'ordre d'évacuation générale de la population des régions de Rafah et de Khan Younes dans le sud, appelant les civils à se diriger vers l'ouest, vers le secteur humanitaire de Mawasi. L'armée israélienne, en tout cas, dément avoir connaissance de victimes occasionnées par des tirs dans la zone de distribution alimentaire. Une enquête est toujours en cours. Et des témoins sur place, en tout cas, indiquent que l'armée a tiré depuis des drones et des chars sur des civils, notamment sur des enfants.
À Jérusalem, Michel Paul, RFI pour France Culture. Je rappelle que selon l'ONU, 100% de la population de Gaza est menacée de famine. Après un blocus humanitaire de plus de 2 mois, qu'Israël n'a que partiellement assoupli la semaine dernière. En France, une école élémentaire du 3e arrondissement de Lyon a été incendiée et taguée avec des inscriptions antisémites hier soir, d'après nos confrères de France Info. Hier, ce sont 3 synagogues ainsi que le mémorial de la Shoah qui ont été visées. visée par des jets de peinture verte. Suite du grand congrès américain sur le cancer à Chicago, aux États-Unis, les principales annonces en matière de progrès de la recherche sont faites en fin de journée. Les États-Unis figurent toujours comme les leaders incontestables de la recherche. Mais les espoirs d'innovation viennent aussi de la France. Solène Lehen, vous êtes notre envoyée spéciale à Chicago.
Sur les 40 000 cancérologues et représentants des laboratoires pharmaceutiques qui se pressent dans les gigantesques couloirs du Congrès, il y a cette année près de 1 000 Français. Il faut dire que la recherche française vient en force. 340 études sont présentées par des cancérologues qui travaillent dans les hôpitaux ou centres de lutte anti-cancer en France.
La France est positionnée exceptionnellement au monde pour attaquer le cancer.
Et c'est un cancérologue du très prestigieux institut Dana-Farber de Boston qui le dit, le professeur Tony Chouéry.
La France en général, les cancers sont au top des inventions, des essais cliniques et de tout.
La France représente 13% des essais consacrés au cancer.
Ça bénéficie aux patients. Il y a toujours, dans les majeurs congrès au monde, il y a une présence française. Et je veux dire une présence française pour le dépistage, pour le cancer précoce, pour les sciences basiques, pour les sciences cliniques et pour les grands essais. La France est au top et félicitations.
Les 5 études principales de ce congrès seront présentées ce dimanche. Des équipes françaises ont participé à 2 d'entre elles.
Solène Lehen, envoyée spéciale à Chicago pour France Culture. Le marché des voitures neuves s'enfonce dans la crise en France avec un repli des immatriculations de 12% en mai par rapport à l'année dernière selon les chiffres publiés par la plateforme automobile. Plus de 123 000 voitures ont été immatriculées le mois dernier. Le marché de l'occasion, lui, reste stable. C'est un magazine qui a vu le jour dans des petits ateliers à Saint-Étienne. Le chasseur français fête ses 140 ans. Chasse, pêche, bricolage ou encore cuisine, voilà les sujets incontournables de ce mensuel, également connu pour ses annonces matrimoniales. Mais comment expliquer une telle longévité alors que la situation financière de la presse est particulièrement vulnérable? Écoutez la réponse de Benoît Coquart, sociologue. Il est interrogé par Charlotte Faubert.
À mon sens, Le Chasseur français, c'est un journal qui est très démocratique. Je suis persuadé que Le Chasseur français conserve une part de lectorat populaire très élevée par rapport à l'essentiel des autres supports qu'il y a aujourd'hui dans les kiosques. Que l'attachement des lecteurs, il tient au fait que Le Chasseur français a su en fait capter un lectorat important à une certaine époque, qui s'est abonné et qui continue de rester abonné. Il parle de choses qui sont vraiment de l'ordre du loisir choisi, des activités appréciées en fait par une partie de la population rurale. La consommation de ce type de contenu, elle est très massive. Et Le Chasseur français, c'était à l'origine ce magazine qui regroupait tout ça. Dans Le Chasseur français, aujourd'hui, on va lire beaucoup de sujets sur la pêche où les pêcheurs relâchent leurs poissons. Ils vont en fait guider l'évolution des pratiques. Et les prises de position qu'il y a dans le journal, alors déjà, je les trouve assez discrètes. Je pense qu'ils ont envie de tout, sauf de fâcher leur lectorat qui est très fidèle et de le garder. Mais c'est à chaque fois plutôt des menaces qui viendraient en fait contraindre les différents loisirs qui sont présentés dans Le Chasseur français. Donc on peut avoir certaines prises de position ou certains discours sur les menaces qui pèsent sur la chasse.
Benoît Coquart, sociologue au micro de Charlotte Faubert. Et j'ajoute que Le Chasseur français, ce sont 850 000 lecteurs en 2024. Eux étaient 12 millions de téléspectateurs rassemblés hier soir devant M6 et les chaînes du groupe Canal+ pour regarder la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan, selon les chiffres de Médiamétrie. En marge de cette victoire, 2 personnes sont mortes. Un mineur à Dax tué au couteau à Paris. À Paris, un homme en scooter est mort après avoir été percuté par une voiture. 216 personnes ont été placées en garde à vue, dont une cinquantaine de mineurs. Dans la Manche, un policier a été placé dans le coma. Cet après-midi, les Champs-Élysées sont à nouveau fermés à la circulation. Les joueurs du club de football défileront dans un bus à partir de 17h sur l'avenue. Le temps, cet après-midi, des éclaircies sur les côtes de la Manche, des nuages de la région Grand Est à la Nouvelle Aquitaine. 10 départements du centre-est de la France sont placés en vigilance orange pour risque d'orage à partir de 16h, indique Météo France. Du côté des températures, il fait 20 degrés à Rouen, 22 à Paris, 24 à Perpignan.